Prions ensemble. Seigneur, comment parler de toi? Comment expliquer tes plans merveilleux, Seigneur, pour nous? Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à comprendre ce que ta parole enseigne ce matin. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes nécessiteux de toi, de ta proximité, et de comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nos vies. Et Seigneur, ainsi, aide-nous, s'il te plaît, ce matin. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Et ouvre ta parole, Seigneur, pour nous. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Alors, nous allons avoir deux prédications. Pas aujourd'hui, hein, une seule aujourd'hui. Mais deux prédications sur le sujet des vrais et des fausses conversions. La prochaine sera dans quelques semaines. Et notre texte aujourd'hui sera sur Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Peut-être que vous avez déjà entendu un témoignage un peu dans ce genre. J'ai donné ma vie à Christ quand j'étais tout petit, quand j'étais enfant. Après, j'ai vécu une vie remplie de débauche, de compromis. J'ai vécu tout à fait dans le péché. J'étais rempli de colère, de haine, de cupidité. Mais pendant tout ce temps, je connaissais le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai à nouveau donné ma vie à lui, quand j'avais 50 ans. Peut-être que vous avez déjà entendu un peu un témoignage dans ce genre, et vous vous êtes dit, quelque chose ne semble pas tout à fait bien collé ici. Cette prédication va nous aider à mieux comprendre de telles affirmations. Au début, nous voulons nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question? Qu'est-ce que c'est la vraie conversion? Qu'est-ce que c'est la fausse conversion? Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, la première, c'est que la Bible en parle. Et pas que dans notre passage, de ce passage ici, Matthieu 7, mais à maintes et maintes reprises, la Bible en parle. Donc, il faut que nous aussi réfléchissions là-dessus et que nous en parlions aussi. La deuxième raison, c'est parce que c'est important pour vous, pour nous ce matin, de regarder ce sujet. Pour être sûr que vous êtes dans la foi, Dieu vous demande, dans sa parole, de vous examiner vous-même. Et c'est écrit en 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. À moins peut-être que l'examen soit un échec. La vraie et la fausse conversion touche l'éternité, le ciel, l'enfer. Si nous sommes réellement convertis, nous irons au ciel. Si nous avons une fausse conversion, l'enfer nous attend. Et c'est pour ça que nous voyons que le sujet est vraiment sérieux. Qui est donc réellement chrétien? Comment savoir où tu te trouves ce matin? Jésus donne dans notre texte au début déjà deux éléments de réponse au verset 21 et 22 en montrant donc qu'il y a deux choses qui ne sont pas forcément des signes d'une vraie conversion. Donc la première chose c'est Jésus enseigne que l'on n'est pas chrétien à cause d'une profession de foi seulement. Une profession de foi ne suffit pas. Notre texte dit qu'il existe un groupe de personnes qui, le jour du jugement dernier, se trouveront devant le juge du monde, Jésus-Christ, et ils auront une très, très mauvaise surprise. Ce groupe de personnes va dire au Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire, ils vont affirmer que Jésus-Christ est leur chef, celui qu'ils suivent, à celui qu'ils obéissent. Ce sont des gens qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont chrétiens. Et c'est vrai, c'est une confession de foi chrétienne depuis 2000 ans de l'histoire de l'Église. C'est une confession, Christ est mon Seigneur, c'est la confession, une confession de foi chrétienne. Mais Christ leur dira cette parole tragique, cette parole finale, qui est écrite dans notre texte, au verset 23. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » On peut aussi traduire qui ne suivez pas la loi, qui êtes sans loi. Et être traité de la sorte de Jésus, par Jésus, ça veut dire être envoyé, donc, loin de Dieu, en enfer. Alors, il y a des personnes qui disent « Oui, 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 je me suis converti, je suis né de nouveau, j'ai été régénéré, je suis baptisé, je prends la scène, j'ai grandi dans une famille chrétienne. » Mais c'est pas parce qu'une personne pense d'elle-même qu'elle est convertie, qu'elle est forcément en réalité. En Proverbe 14, verset 12, c'est écrit « Il y a un chemin qui paraît juste à l'homme, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. » Les derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent d'elles-mêmes « Oui, 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 je suis chrétien. » Et puis elles rajoutent derrière des personnes qui croient à l'islam, au catholicisme roumain, à d'autres religions, peuvent aussi être sauvées. Sauvées sans Jésus-Christ? Affirmer cela, c'est n'importe quoi. C'est comme une personne qui dit « Oui, 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 je saute en parachute et il faut vraiment un parachute pour utiliser un parachute, pour sauter en parachute. Et c'est comme ça qu'il faut sauter, c'est la manière juste de faire les choses. Mais c'est très bien de sauter aussi sans parachute. » C'est totalement, c'est pas du tout logique. Ça se contredit. Sauter sans parachute, c'est très bien si on veut à la fin s'écraser. Mais ça ne fonctionne pas. Si on veut vivre. En acte 4, verset 12, c'est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est le seul chemin. La Bible le témoigne encore et encore de cela. Il y a une exclusivité. Et si on dit non, si on relativise, ben on ne suit plus la Bible. D'autres personnes disent, si, je suis converti parce que je connais ma date. La date quand je me suis converti, c'était le 25 mai 2013, par exemple. Je suis converti, j'ai la date. Mais ça ne change rien au fait que ce n'est pas forcément parce que vous connaissez la date d'une présumée conversion que c'est vraiment une conversion authentique qui a eu lieu à cette date. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Votre profession de foi à elle seule a zéro poids devant Dieu. Si vous construisez votre assurance seulement sur votre profession de foi, vous êtes en danger. C'est ce que nous enseigne ce passage. Alors pour Jésus, il y a une deuxième chose qui n'est pas non plus un signe de conversion authentique. C'est au verset 22. Dans notre passage, ces personnes affirment qu'elles ont fait de grandes choses pour Dieu. Elles ont fait des miracles. Elles ont prophétisé. Elles ont chassé des démons. Et c'est intéressant de voir, Jésus ne remet pas du tout en question que ces personnes ont fait des grandes choses aux yeux des hommes. Mais ce qui est grand aux yeux des hommes n'est pas forcément grand aux yeux de Dieu. Pour Dieu, ce ne sont pas des miracles qui comptent. Ce n'est pas des dons exceptionnels. Ce n'est pas parce qu'on chante de manière... parce qu'on a un don pour chanter, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on évangélise, parce que peut-être même on a amené des personnes à croire à Christ, qu'on est forcément réellement converti. Ce n'est pas des grandes choses qu'on fait qui nous montrent que nous sommes réellement converti. Judas aussi, Judas Iscariote, celui qui plus tard trahit Jésus, lui aussi il a fait des miracles. En Matthieu 10, verset 8, Jésus envoie ses 12 disciples, aussi donc Judas Iscariote, faire des miracles, donc délivrer des personnes de démons, guérir des personnes, même ressusciter des morts, des personnes. Et pourtant Jésus dit de ce Judas qui a fait des miracles, il dit de lui qu'il est un diable. Judas n'était jamais réellement converti, il n'était jamais sauvé. Il y a d'autres passages bibliques qui montrent des signes qui peuvent paraître montrer une réelle conversion, mais qui ne le sont pas. Je vais en citer quelques-uns. Ce n'est pas un comportement moral exceptionnel non plus qui nous montre que nous sommes convertis. On le voit avec les pharisiens qui donnaient le dixième de toutes choses, même de la menthe, du cumin, même des petites herbes. Ils pesaient toutes choses et donnaient le dixième à Dieu. Ils se comportaient de manière vraiment moralement exceptionnelle. Mais ils n'étaient pas convertis. Ce n'est pas non plus parce qu'une personne est instruite dans les doctrines bibliques qu'elle connaît bien sa Bible qu'elle est convertie. On le voit encore une fois chez les pharisiens qui connaissaient souvent de grandes parties de la Bible de l'Ancien Testament par cœur, qui étaient très très bien vus des gens autour d'eux, qui les gens pensaient que c'était des grands théologiens, ils avaient une connaissance impressionnante, mais ce n'est pas ça non plus qui montre une réelle conversion. Ce n'est pas non plus parce qu'une personne est religieuse qu'elle est convertie. Encore une fois, qui était plus religieux que les pharisiens? Aux yeux du monde, ils étaient l'élite religieuse. Pourtant, Jésus dit de cette élite, et là je cite Matthieu 23, « Hypocrite, insensé, aveugle, malheur à vous !» Et il répète ça à plusieurs reprises. « Hypocrite, insensé, aveugle, malheur à vous !» Enfin, ce n'est pas parce qu'une personne a une conviction profonde de péché qu'elle a un problème devant Dieu, un problème extrêmement grave, qu'elle est forcément convertie. Encore une fois, là on le voit à Judas. Judas qui, après avoir trahi Jésus, fut convaincu qu'il avait péché. Il avait commis un péché énorme en trahissant Jésus en Matthieu 27. Mais pourtant, il ne se repentit pas de son péché. Et Pierre nous a prêché sur ce passage il y a 2 semaines. Alors, la confession de foi. Se comporter bien moralement, connaître sa Bible, être convaincu de péché, tous ces éléments font partie d'une vraie foi. Mais toutes ces choses ne représentent pas des preuves à 100% sûres qu'on est réellement converti. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que ça ne montre pas une vraie conversion? Toutes ces choses qu'on peut observer, que nous avons vues. Pourquoi donc? Parce que l'homme peut copier volontairement ces choses-là. L'homme peut copier un comportement chrétien. Il peut le faire en le voulant ou alors même sans le vouloir. Il peut copier. C'est dans son grand état pécheur que l'homme commet et est capable de commettre ce grand mal. L'homme est donc même capable de copier ce qui plaît à Dieu. Lorsque j'étais en mission au Kenya, j'étais pendant 6 mois avec un très bon ami là-bas, à moi. Il avait passé 2 mois dans le nord du Kenya, qui est musulman. Il avait servi Dieu là-bas. Et c'était une région dangereuse pour les chrétiens. Puis donc après ces 2 mois, il est venu un peu plus vers le sud, là où moi je me trouvais, et là on a fait connaissance. Et il était donc mon voisin de chambre, dans notre colocation. Et on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, on parlait, on était dans le même groupe de maison, on lisait la Bible ensemble, on étudiait la Bible, on priait ensemble. Et vraiment, nous nous connaissions très bien. Alors un jour, il vient vers moi, il me dit, en fait, je ne suis pas converti. et je n'étais jamais croyant. Alors là, j'étais vraiment choqué. Il avait prié avec moi. Il m'avait partagé son verset biblique préféré. Il avait risqué sa vie au Kenya pour une foi qui en fait n'était pas la sienne. Il n'était pas croyant. La Bible nous enseigne cela. On peut copier un comportement chrétien et on le voit dans la pratique. On le voit dans la vie. On peut copier en le voulant ou sans le vouloir. Mais alors, qu'est-ce qui va te montrer que tu es réellement converti, que tu es réellement sauvé? Si ce n'est pas ta profession de foi, si ce n'est pas tes dons, si ce n'est pas tout le reste. Dans notre passage, Jésus parle de deux choses que toi et moi, que nous devons faire, qui nous appellent à faire. Ces choses montrent si nous sommes réellement croyants. Alors au verset 21, on le voit, la première chose, c'est faire la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, c'est au verset 23, ne pas être de ceux qui commettent l'iniquité. Littéralement, de ne pas être de ceux qui ne suivent pas la loi, anomos en grec. Il faut donc tenir la loi. Autrement dit, Jésus enseigne qu'un chrétien suit la loi de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne pêche jamais? Non, 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 pas du tout, ça ne veut pas dire ça. Bien sûr que non. Un chrétien commet encore des péchés, il tombe encore dans le péché. Mais il ne nage pas dans le péché. Il va sortir de cette boue, il va se tenir devant son Seigneur, il va se laisser laver par le sang précieux de Jésus-Christ. Si on est un vrai chrétien, on va tenir la loi, on va vivre une vie différente. Bien sûr, ce ne sera pas une vie parfaite, on vient de le voir, mais ce sera une vie différente. C'est ce qu'enseigne la Bible et ce passage. Un autre passage qui enseigne cela, c'est en 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une nouvelle créature se comporte de manière différente comparée à ce qu'elle était avant. Une chenille vit différemment qu'un papillon. La chenille, elle rampe. Le papillon, il vole dans les airs. Un chrétien se comporte différemment. Alors ici, il y a un grand nombre de chrétiens évangéliques qui ne sont pas du tout d'accord. Ils disent non, 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 non. Un chrétien peut vivre comme les non-chrétiens autour de lui. Il peut ne jamais prier, ne jamais lire la Bible, ne jamais témoigner de sa foi aux gens autour de lui qui sont perdus. Il peut aimer l'argent, il peut vivre dans le péché sexuel. En fait, ils disent, il peut vivre comme un diable, mais s'il a Jésus dans son cœur, alors tout va bien. S'il témoigne que Jésus est dans sa vie, alors tout va bien. Cette doctrine a même reçu un nom, c'est la doctrine du chrétien charnel. Et c'est intéressant de voir qu'elle n'a aucun fondement biblique. Elle est construite en fait sur deux versets, c'est en 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3. On va rapidement regarder ça. 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3. C'est Paul qui parle à cette église, donc. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Alors quand on regarde ces versets comme ça, il semble vraiment que ça existe, le chrétien charnel. Mais comme bien souvent, il faut lire le contexte. Et quand on regarde le contexte, le problème se dissolue. Paul, à aucun moment, ne dit que les chrétiens sont totalement similaires aux non-chrétiens. Mais il dit que ces chrétiens-là de Corinthe ont un problème, c'est que dans des parties de leur vie, il y a des éléments de leur vie qui ne plaisent pas à Dieu et que eux ils laissent comme ça. Donc nous savons que c'est l'église de Corinthe, donc il y a un problème de jalousie, de dispute. Il y a des personnes qui suivent Paul, il y en a d'autres qui suivent Pierre, Képhas, d'autres suivent Apollos, donc différents enseignants. Et en fait, Paul leur dit, cet élément de votre vie, cette dispute, ça ne va pas devant Dieu. Il faut que vous mettiez cela en ordre. Donc il souligne le fait qu'il faut changer les choses qui ne sont pas en ordre. Donc en fait, quand on regarde bien, c'est exactement le contraire de la doctrine du chrétien charnel, qui dit oui, on peut vivre totalement comme le monde. Non, même les éléments qui ne vont pas dans notre vie, Dieu n'est pas d'accord avec cela. En tant que chrétien ce matin, veillons que notre vie soit en règle avec Dieu. Et pas que généralement, mais dans toutes ses parties, que tout soit en règle. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui montrent qu'un chrétien est différent d'un non-chrétien. Il y a Matthieu 6, par exemple. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un chrétien, ça se voit. Il agit différemment. Un nombre impressionnant de versets montre aussi qu'un chrétien est réellement appelé à tenir les commandements. Par exemple, Jésus parle en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Autrement dit, si on ne garde pas les commandements, on n'aime pas Dieu. Alors, Jésus parle de commandements ici. De quel commandement est-ce qu'il parle? Avant tout, il parle du commandement de l'amour. En Matthieu 22, 37, c'est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, dans ce commandement-là, dans ce double commandement de l'amour, nous retrouvons tous les commandements. Tout à l'heure, ça a été lu dans le passage de Romains. Tous les commandements sont là. Ne pas avoir d'autre Dieu, ne pas avoir d'idole, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, honorer ses parents, ne pas désirer ce qui est à autrui. Quand une personne devient chrétienne, quand elle se convertit, il y a une chose extraordinaire qui se passe en elle. Tout à coup, il y a un amour pour la loi de Dieu, où avant il y avait la haine pour cette loi. Le psaume 119 qui parle de la beauté de la loi, il est écrit dans le psaume 119, « Je lève mes mains vers tes commandements, que j'aime, et je veux méditer tes statuts. » Dans le converti, il y a un désir profond d'adorer le Seigneur et de montrer son amour à Jésus. Concrètement, cet amour pour Dieu, pour sa parole, pour la loi, se montre par le fait que le nouveau converti aimera rester et aller dans les cultes, aimera écouter la parole de Dieu, prêcher. Il n'aura pas besoin d'être invité, convoqué, persuadé de venir à la maison du Seigneur. Il viendra. Sauf bien sûr s'il y a des... voilà, en cas de maladie ou de problèmes graves. En même temps, le chrétien connaît un grand amour envers les frères et sœurs, envers les autres chrétiens. C'est écrit en 1 Jean 3, verset 14. Cet amour l'attire, ce chrétien, se convertit vers la communion fraternelle, vers la prière commune, le partage, l'aide, l'entraide, aussi une aide même qui est sacrificielle, qui nous coûte quelque chose. En Romains 5, 5, il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit place cet amour en nous. Ce n'est pas de l'amour que nous, on doit créer. C'est un amour que Dieu nous donne lors de notre conversion, que Dieu renouvelle et qui nous permet d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Nous voyons donc que les bonnes œuvres ne sont pas quelque chose que nous pouvons faire par nos propres efforts. C'est par l'amour de Dieu que Dieu place en nous que nous pouvons vivre cette vie différente. Et la question à vous ce matin, est-ce que cet amour de Dieu a été déversé dans votre cœur ? C'est très beau de voir cet amour qui est fraîchement né dans la vie d'un nouveau converti. Il est tout feu, tout flamme pour son Dieu. Mais hélas, avec le temps, ça se peut que cet amour se perd lentement, se refroidisse. On oublie les merveilles que Dieu a fait pour nous. Et l'amour envers Dieu devient plus froid. On commence aussi à en avoir un peu assez des chrétiens autour de soi. On remarque leurs faiblesses, encore et encore ils commettent les mêmes péchés. Et l'amour envers les chrétiens aussi devient froid. Alors frères et sœurs, ne laissons pas notre amour devenir froid. N'oublions pas quelle grande chose ce grand Dieu a fait pour nous. Et vraiment, il mérite tout ce que nous sommes et tous nos efforts de lui montrer aussi cet amour, ce grand amour. Montrons-lui cet amour. Et quand nous pensons aux frères et sœurs autour de nous, est-ce que nous ne sommes pas comme nos frères et sœurs? Nous aussi, nous avons beaucoup de faiblesses. Encore et encore, nous tombons dans les mêmes péchés. Et Dieu a compassion de nos frères et sœurs. Donc nous aussi, soyons dans l'amour envers eux. Jésus parle de deux choses que toi et moi nous faisons si nous sommes réellement croyants. Donc nous venons de le voir, tenir la loi. Et la deuxième chose, c'est faire la volonté de Dieu, au verset 21. Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie? En Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, donc, pour toi, c'est de ne pas être ou de chercher à être ce que la télé, l'Internet, les affiches dans les rues te disent d'être. Le siècle présent n'est pas notre règle de mesure. Alors, qu'est-ce qu'est notre règle de mesure? C'est écrit en 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous soyons comme Dieu. Saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nous voulons maintenant voir rapidement quelques points de caractère d'un chrétien que nous voyons dans les Béatitudes en Matthieu 5, chapitre 5, verset 3. Et ici, nous pouvons voir sept signes qui montrent ou que montre un vrai chrétien. Donc, nous commençons en verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui se rendent compte que devant Dieu, en eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Spirituellement parlant, ils ont besoin de Dieu. Et ça les amène à une humilité. Ils sont humbles. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Littéralement, c'est ceux qui sont dans le deuil. Heureux ceux qui sont dans le deuil. Ils sont dans les pleurs à cause de leurs péchés, à cause de leur incapacité de se tenir eux-mêmes justes devant Dieu, de faire quelque chose qui plaise à Dieu. Et donc, cette tristesse les amène à une repentance continue dans leur vie. Ou encore, au verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Ici, on voit que le chrétien reflète, en réalité, Dieu lui-même. Dieu qui est doux envers nous. Il est doux. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à être doux, à être patient avec les autres et avec Dieu lui-même aussi. Au verset 6, nous voyons « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la soif de se comporter de manière juste, de manière digne devant ce Dieu, devant aussi de se comporter de manière juste devant son prochain. Au verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Les miséricordieux, donc c'est ceux qui sont, encore une fois, comme leur Dieu. Dieu est miséricordieux envers le chrétien. Il lui pardonne Moi aussi, donc, je suis appelé à être miséricordieux. Je pardonne à ceux qui me font du mal, je suis prêt à pardonner. Au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur, c'est que Christ a purifié le cœur de cette personne. Être juste, avoir une conscience apaisée, c'est ça, avoir le cœur pur. Je sais, je suis sauvé, j'irai au paradis. Et enfin, ici, le dernier, le septième signe, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui annoncent l'évangile de paix autour d'eux, qui disent et qui montrent, j'ai un sauveur, et toi aussi tu as besoin de ce même sauveur. Nous avons violé, de dire justement que nous avons violé la loi de Dieu, que nous sommes criminels devant Dieu, que nous sommes dignes par nous-mêmes d'être jugés par le Dieu vivant, de recevoir une punition, mais que Jésus a payé donc ce que nous méritions. Il a payé notre dette. Et donc que maintenant, celui qui se repent, qui se détourne de son péché, qui dit à Dieu, je suis coupable, mais fais-moi grâce, et qui croit au Seigneur Jésus, que cette personne est sauvée. On le voit donc dans les béatitudes ici, qu'il y a le désir dans le chrétien d'être comme son Dieu, de lui ressembler de plus en plus. Donc il y a un caractère de joie, on l'a vu, parce que moi je suis donc, grâce à Dieu, sauvé en tant que chrétien. Il y a aussi un caractère de tristesse, parce que moi, dans ma vie, il y a encore beaucoup de problèmes. Souvent je tombe encore dans le péché. Et donc il y a cet élément aussi de tristesse. Je veux être plus comme ce que Dieu veut que je sois. Mais je n'y arrive pas. Et je vois aussi le péché autour de moi, dans les chrétiens, dans les non-chrétiens. Je vois les problèmes dans ce monde et ça m'amène vers la tristesse. Mais, donc il y a ces deux éléments dans la vie chrétienne. Mais la joie est quand même celle qui est plus grande parce que je suis sauvé. Peu importe mes faiblesses aussi. Et ce qui est très important, ce que nous comprenions, donc je vous demande de bien écouter, on n'est pas chrétien parce que l'on dit « je connais Christ ». On est chrétien parce que Christ nous dit « je te connais ». Et pour expliquer cette vérité importante, je veux partager une illustration avec vous. Supposons que j'aille à Paris, je vais à l'Élysée, et je dis au personnel de sécurité, je peux passer, c'est bon, laissez-moi passer, je veux voir le président, je connais le président, je connais Monsieur Hollande, c'est pour ça, laissez-moi passer. Comment ils vont réagir, ces gardes? Ils vont, bien sûr, ne pas me laisser passer, parce que cet argument n'est pas valable. Il y a en France plus de 60 millions de personnes qui connaissent M. Hollande. Dans le monde, il y a plusieurs milliards de personnes qui connaissent M. Hollande. C'est pas parce qu'on connaît le président qu'on peut entrer chez lui. Mais maintenant, supposons que donc moi je suis devant l'Élysée et que M. Hollande, le président, sorte de l'Élysée et dise à ses gardes « C'est bon, laissez-le passer cet homme, je le connais, il peut passer ». Alors là, je peux passer, parce que lui, il me connaît. Et Christ nous dit « je te connais » par le fait qu'il nous offre une nouvelle vie, une vie changée. C'est sa manière à lui de nous dire « je te connais ». Et c'est important de voir aussi que cette nouvelle vie que nous vivons grâce à Christ est un cadeau. C'est pas quelque chose, j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, que nous pouvons créer par nous-mêmes. Le salut est un cadeau, la vie changée est aussi un cadeau. Et avant de connaître Christ, cette manière de vivre était totalement inaccessible, totalement impossible. Mais grâce à Christ, une nouvelle vie est possible. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. C'est une chose puissante. Et c'est visible aussi. Et je ne veux pas vraiment pas dire que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie parfaite, que nous devons vivre un degré impressionnant de sainteté. Non. Il y a des éléments où nous sommes, où nous serons et serons toute notre vie dans la faiblesse. Mais ce qui est important, c'est que Christ, quand nous le rencontrons, quand il nous appelle, je te connais, il va changer notre vie. Il va y avoir un changement. Alors la question à toi ce matin, Christ te connaît-il? Te reconnais-tu dans ces caractères de joie et de tristesse que marque la vie d'un chrétien? Te reconnais-tu dans le fait aussi que maintenant la loi est quelque chose pour toi que tu aimes et que tu aimerais aussi suivre? Et si oui, alors tu es dans la joie, tu as une grande raison d'être dans la joie et dans la reconnaissance envers ton Dieu. Tu peux être dans la joie parce que cela te montre que tu es converti. C'est peut-être impartiel, c'est peut-être faible, cette vie changée, mais elle est changée. Tu peux être dans la joie parce qu'il t'affermit aussi quand tu observes cela dans ta vie. Il t'affermit, il te montre que réellement tu es son enfant. Si tu n'observes pas cet amour pour Dieu, cet amour pour la loi en toi, alors il y a un grand point d'interrogation. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement converti? Si tu n'as pas changé de vie, il se peut très bien que tu aies vécu une fausse conversion. Et donc il est important que tu cherches la face de Dieu et que tu te repentes, que tu te mettes toute ta confiance en Christ et en lui seul. En Jean 6, il est écrit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. » Crois. Donc nous avons vu que Christ fait tout. Il nous a racheté la vie éternelle. Il nous offre le salut et cette vie éternelle. Et cette vie éternelle débute quand nous nous convertissons. Et c'est une nouvelle vie, c'est une vie différente de ce que nous connaissions avant. Une vie que Dieu lui-même a débutée, une vie que Dieu lui-même va continuer à nous aider à vivre. Alors comment est-ce que Dieu fait ça? C'est par l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen.